Poursuivez Ramadan & Co avec le Secours Islamique France. Vos dons changent des vies. Agissez aux côtés du Secours Islamique France. Ramadan, votre générosité fait toute la différence.
17h-20h, Ramadan & Co avec Philippe Robichon et l'imam Abdelali Mamoun sur Beurre FM. Beurre FM, sur les traces du prophète Abdelali Mamoun.
Sur les traces du prophète, on vous entraîne tous les soirs. Sur les traces du prophète, bonsoir, bienvenue, ravi de vous retrouver. L'imam Abdelali Mamoun nous sert de guide. Bonsoir imam Abdelali.
Bonsoir Philippe, salamu alaykoum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Nous avons évoqué hier soir une bataille, imam Abdelali, mais nous n'avons pas nommé. Quel est son nom ?
Alors son nom c'est Harb al-Fujar ou Harb al-Fijar, il y a différentes versions sur sa prononciation. Est-ce que c'est avec un dhamma, on dit Fujar. Alors pourquoi Fujar ? Parce que le mot Fujar, ça veut dire le pluriel de Fajir. Fajir, ça veut dire quelqu'un qui est un, qui commet des turpitudes, qui commet, qui est un transgresseur. Pourquoi on parle de transgression ? Parce que tout simplement, les Qays Aylan et les Kinaniyin, c'est-à-dire Quraysh, les habitants de la Mecque, sont cousins et de la même famille par alliance. Ils ont des liens énormes. Donc il y a une forme de rupture du lien familial entre Qays Aylan et Kinana à travers cette guerre et cette bataille. C'est pas qu'une bataille, c'est plusieurs batailles. C'est une guerre qui va durer 2 ans, selon certains historiens, et qui, à chaque fois, va permettre aux Mécois de profiter de leur avantage stratégique, qui est le fait qu'ils sont détenteurs de ce territoire sacré infranchissable qu'on appelle al-Haram al-Makki, hein, le territoire sacré de la Mecque. Pourquoi ? Parce qu'ils ont peur qu'il leur arrive la même chose qu'à Abraha. Tu te rappelles, Philippe, on a parlé il y a quelques jours d'Abraha al-Habashi, qui, quand il a voulu venir, il a entré avec son armée à la Mecque, il a été bombardé par des oiseaux de l'enfer et été déchiqueté par une armée d'oiseaux venus de l'enfer. Donc les Qays Aylan ont peur aussi de subir le même sort 20 ans plus tard, 20 ans après la naissance du prophète, qu'on appelle l'année de l'éléphant. À chaque fois qu'ils arrivent et que l'armée de la Mecque se rebrousse chemin face à cette immense armée, on parle de Hawazin, Ratafan, Thaqif, Fahm, wa Udwan, wa Sulaym, wa Asad, ce sont des immenses tribus qu'on appelle les rois d'Arabie, qui sont tous cousins, tous issus d'une même tribu qu'on appelle les Qays Aylan, eh bien, vont donc affronter les Mécois et donc à chaque fois être confrontés à ce problème de territoire sacré de la Mecque. Quand les 2000 hommes, 3000 hommes environ Mécois, eh bien, font bataille, ils tuent des Qays. Et au moment où est-ce que les Qays reprennent le dessus grâce à leur nombre plus important, eh bien, les Mécois se réfugient à l'intérieur du territoire sacré. Et c'est ainsi de suite qu'ils font des allers-retours. À chaque fois, ils attaquent, ils piquent, ils tuent, et après ils se sauvent et rentrent dans le territoire sacré, bien entendu, restant toujours un territoire infranchissable pour les Qays Aylan. Parce qu'ils ont connaissance, comme je le disais, de cette histoire et 20 ans plus tôt qu'a eu lieu, qu'a subi Abraha al-Habashi. Et donc, suite à cela, au bout d'un certain temps, l'armée commence à s'effondrer et ils demandent l'armistice et la reddition de l'armée de Qays Aylan. Et les Mécois sont donc vainqueurs. Ils sont vainqueurs de cette grande tribu qui, à l'époque, était les rois d'Arabie. Donc, ils perdent leur statut, leur supériorité sur les Arabes d'Arabie. Et ce sont les Mécois maintenant, puisque tout le monde apprend la nouvelle, hein, on parle du téléphone arabe, à l'époque ça marchait très bien, tout de suite on dit les Qays Aylan ont perdu la bataille contre les Mécois, et c'est donc les Mécois qui deviennent les maîtres de l'Arabie, c'est eux qui deviennent les rois d'Arabie, les plus puissants, ceux qu'on va craindre le plus. Aucune caravane mécoise ne fait l'objet d'une quelconque agression ou profanation. Tout le monde craint les Mécois. Dès qu'on voit un Mécois, hop, 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 on fait marche arrière, on a peur de subir les représailles de la tribu des Mécois ou des oiseaux venus du ciel parce qu'ils sont bénis par Dieu.
Alors il est où le prophète dans cette bataille ?
Il est combattant. Il donne des flèches à ses oncles. les Bani Hashim qui participent avec Quraysh dans la bataille. Ils donnent des flèches, ils fabriquent des flèches, ils fournissent et ravitaillent l'armée mécoise. Je parle de l'époque de deux armées qui ne sont pas musulmanes. L'islam n'existe pas encore. Le prophète n'a que 20 ans. L'islam, l'avènement de la prophétie n'aura lieu que 20 ans plus tard. C'est-à-dire en l'an 610. Là, nous sommes que l'année 590 de l'ère chrétienne, du calendrier chrétien. Donc, en l'an 590, cette bataille de Fijar va donc aboutir à la victoire des Quraysh sur les Qaysaïlan et donc définir la domination de la tribu du prophète sur le reste de l'Arabie. Ensuite, bien entendu, va avoir lieu ce fameux pacte ou cet accord qu'on appelle Hilf al-Fudul. Et qui est.
Alors, de quoi s'agit-il, Imam Abdel Ali ?
Qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que, à Mecca, même si les Arabes commencent à avoir les chevilles qui gonflent et commencent à se prendre pour des tyrans, parce qu'ils pensent être les dominants de l'Arabie, eh bien, ils se croient tout permis. Et s'organisent à la Mecque une véritable mafia. Les mafias, ce sont des Arabes issus des tribus d'origine, des notables, des Bani Marzoum, des Bani Sahm, etc. Et l'un d'entre eux, Wa'il ibn al-As, le père de Amr al-As, qui est le fils qui deviendra compagnon du prophète, son père, Wa'il ibn al-As, va tout simplement, quand il va ce qu'on appelle procéder à une transaction commerciale entre lui et un habitant originaire du sud, de l'Arabie, eh bien, il va tout simplement refuser de restituer les biens de cet homme-là. Et cet homme-là, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va tout simplement monter sur la montagne de Abi Qubays et il va crier, il va porter plainte aux habitants de la Mecque. Il va leur dire, c'est quoi, vous vous prenez pourquoi, c'est quoi ces habitants qui vous dites territoire sacré, où on n'a pas le droit de transgresser et de porter atteinte à autrui, eh bien vous vous permettez de me spolier mon argent. Ils l'ont tout simplement racketté, ils lui ont tout simplement volé ses biens. Ibn al-As, donc de la tribu des Bani Sam, va refuser de restituer les biens de cet homme. Et donc il y a Abdullah ibn Jad'an, l'oncle paternel de Abu Bakr, va réunir les notables de la Mecque, les Banu Zuhra, les Banu Hashim, les Banu Umayya, les Banu Makhzoum. Il va réunir tout le monde. Il va dire, allez, on va s'asseoir autour de la table, on va discuter, on va signer un pacte. Que dorénavant, maintenant, si un étranger, un pèlerin vient rendre visite à la Mecque, on devra respecter, ses biens auront un droit divin, c'est-à-dire qu'on va lui accorder un droit divin. Mmh. Plus personne ne pourra faire du tort à un pèlerin qui sera venu à la Mecque, parce que sinon, si on commence à répandre la rumeur que les Mécois sont des mafieux qui s'en prennent aux biens, eh bien, nous allons perdre notre commerce. C'est-à-dire que même d'un point de vue matériel, eh bien, ça n'est pas dans notre intérêt de laisser ce genre de choses se produire à l'intérieur du territoire sacré. Et donc, ils vont signer tous ce pacte-là. Et c'est Abdullah ibn Jad'an, justement, l'oncle paternel de Abu Bakr Siddiq, le fameux de la tribu des Taïm, donc qui est une des plus grandes tribus, une grande tribu de la Mecque, qu'on appelle les Taïm, eh bien, qui va être à l'origine de ce Hilf, cet accord, cette convention mécoise, dont le prophète a même élogé plus tard, quand il deviendra prophète. Il lui a dit, si j'avais été déjà prophète, je l'aurais validé, dira le prophète plus tard.
Le pacte des vertueux.
Voilà, Hilf al-Fudul, le pacte des vertueux, effectivement, puisque à ce moment-là, la mafia mécoise va être tout simplement anéantie. C'est un petit peu comme une sorte de pacte d'incorruptibles, comme il y avait aux États-Unis quand on parle des incorruptibles et de la mafia d'Al Capone, etc. Eh bien, vont tout simplement décider de débarrasser, de nettoyer la Mecque de ces mafieux qui pratiquaient la prostitution, le vol, le racket, etc. Vis-à-vis dont les victimes étaient souvent des pèlerins naïfs et voués à eux-mêmes à la Mecque.
Mais quel est le rôle du prophète pour ce pacte ?
eh bien, il va tout simplement le signer, il va l'approuver en tant que
d'accord, représentant. Il le signe, mais est-ce qu'il a un rôle plus important que
pas
ça?
Pas plus. Il est présent. Et pourquoi? Parce que lui, il va en parler après. Plus tard, quand il deviendra prophète, il racontera cette histoire dans laquelle il a vécu à un moment donné, avant même l'avènement de l'islam, que les Arabes de la Mecque avaient signé cet accord qu'il a loué, qu'il a élogé, qu'il a flatté, qu'il a, on va dire... valoriser en disant que, vous voyez, c'était pas des musulmans et pourtant ils avaient déjà le sens des valeurs. Le sens des valeurs, les valeurs morales, existaient déjà. Et il dira même à la suite, innama bu'istu li utammima makarim al-akhlaq. Je n'étais envoyé que pour parfaire les noblesses de caractère. C'est-à-dire que les noblesses de caractère existaient déjà chez les Mécois. Mais que lui est venu les parfaire, les compléter et s'assurer qu'elle soit totalement et complètement établie dans la population mécoise et médinoise, bien sûr, plus tard.
Ce pacte, il a été signé sur quoi? C'était quoi? C'était un parchemin?
Un parchemin, effectivement. Un parchemin, un papyrus sur lequel ils écrivent et se mettent d'accord sur le fait qu'à dorénavant, plus personne ne pourra porter atteinte au bien d'un pèlerin ou d'un commerçant qui viendra réaliser des transactions à la Mecque. Sinon, si on commence à s'amuser, eh bien, à faire du tort à nos invités, à nos touristes, entre guillemets, et nos commerçants qui viennent de l'extérieur, eh bien, nous allons perdre notre image, notre bonne image. Et les gens ne viendront plus et nous allons donc de ce fait mourir de faim. Je signale déjà qu'à l'époque, ce sont les Banu Rabi'a, vous savez que j'ai parlé de la tribu de l'Est de l'Arabie, où il y a des champs de blé, des champs de d'avoine et de céréales qui nourrissent la Mecque. C'est de là-bas que sont fournis les Mécois. Et si, bien entendu, la Mecque a une mauvaise réputation, eh bien, ses fournisseurs qui récupéraient d'autres marchandises, bien entendu, en contrepartie de ces céréales, arrêtaient de fournir la Mecque en céréales, c'était la famine assurée et tout le monde allait mourir. Donc, il fallait résoudre ce problème de manière ferme et catégorique.
Vous réécoutez cet épisode en podcast sur beurrefm.net et dans un instant, eh bien, vous allez pouvoir poser vos questions en direct à l'imam Abdelali Mamoun. Allô l'imam, comme tous les soirs au 01 53 48 3000, 01 53 48 3000.
Ramadan & Co revient dans un instant.
Suivez Ramadan & Co avec le Secours Islamique France.
17h-20h, Ramadan & Co avec Philippe Robichon et l'imam Abdelali Mamoun sur beurrefm.
Ramadan & Co, 30 jours avec vous. Bonsoir, bienvenue, bon Ramadan. Ravi de vous retrouver, Imam Abdelali, bonsoir.
Bonsoir Philippe, salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Bien. C'est une très très mauvaise influence sur Ousmane Timira.
Ah ouais?
Oui.
Je donne des mauvaises idées.
Des mauvais exemples.
Oui, mais c'est ça où il reste dehors, le pauvre garçon.
Ouais, mais bon.
Et
voilà.
Philippe, lui, il n'est pas là pour résoudre les problèmes. Il est là que pour compliquer les choses. Bon, ça, c'est entre nous, ça. Normalement, les auditeurs ne sont pas censés entendre ça.
Moi, j'ai tout dit.
Ça, c'est entre nous.
Je vais tout dire.
Personne.
Aux auditeurs. Je dois dire que vous êtes
un mauvais exemple. Tout le monde a mis les doigts dans les oreilles. Personne n'a écouté, là.
Bien. qu'est-ce que vous êtes en train de regarder? Vous regardez un communiqué qui vient de sortir, Imam Abdelali.
Oui, il date déjà depuis hier, déjà. Hein. C'est déjà d'hier. Le 15 mars, c'était vendredi hier. La Grande Mosquée de Paris et son conseil théologique, et donc le conseil des imams de la Grande Mosquée de Paris, a décrété que donc Zakat al-Fitr pour cette année ne va pas bouger, sera à 7 euros. Par membre de la famille, et aussi pareil pour la fidia qui reste à 5 euros pour chaque jour non jeûné. Alors la fidia, c'est ce qu'on donne quand on ne jeûne pas, chaque jour non jeûné, donc c'est 5 euros. Moi je pense qu'on aurait dû un petit peu l'augmenter à 6 euros, ça aurait été bien. Je pense que ça aurait été plus juste avec l'inflation qu'on a subie. Au moins déjà cette année, on a quand même une inflation significative. La laisser à 5 euros, ça ne me semble pas très juste. Donc moi je dis à ceux qui m'appellent, je leur dis 6 euros si vous pouvez. 6 euros dans la mesure du possible. Voilà, ça c'est pour la fidia. Alors la fidia, pour ceux qui n'ont pas compris, c'est ce que verse le non-jeûneur qui ne peut pas jeûner parce qu'il a une maladie incurable. Il a ce qu'on appelle une maladie chronique, ou une femme qui allaite et qui sait qu'il va allaiter jusqu'à l'année prochaine, ou une femme enceinte qui sait qu'elle va pas pouvoir jeûner après son accouchement. Donc on donne 5 euros pour chaque jour non jeûné. Ça s'appelle la fidya. La zakat al-fitr, qu'on appelle aussi la fitra, ou zakat al-fitr, elle est de 7 euros. Et ça, c'est une fois pour chaque membre de la famille. Par exemple, moi, il y a moi, ma femme et mes deux enfants à la maison, par exemple, je donne un exemple. Ça fait 4 fois 7, 28. Ben, ça fait 28 euros que je vais donner aux nécessiteux. Cette fitra, cette zakat al-fitr, elle est dépendante du temps. C'est-à-dire qu'il faut la verser avant la prière de l'Aïd. Ça, c'est très important. Donc, est-ce qu'on peut déjà commencer à la donner dès le début du mois du Ramadan? Il y a des avis qui disent non, et il y a des avis qui disent oui. Donc, nous, on va faire selon le besoin. Si vous voulez vous en acquitter maintenant, vous pouvez le faire. Si vous voulez attendre les deux derniers jours avant la prière de l'Aïd, eh bien, c'est tout à fait possible aussi. Il n'y a aucun problème là-dessus. Voilà pour ce qui est de cette question.
On reviendra parce qu'il y aura beaucoup de questions de toute façon sur ces questions-là. Je rappelle que Allo l'Imam dans la première partie de l'émission est avec vous jusqu'à 18h, donc vous pouvez poser toutes vos questions religieuses à l'imam Abdelali Mamoun au 01 53 48 3000, 01 53 48 3000, et puis à 18h nous retrouverons Kamel Chekat pour sa chronique.
Oui. Alors, pour l'information de beaucoup d'auditeurs qui m'appellent pour savoir comment ça se passe cette année pour le pèlerinage, le grand pèlerinage, le Hajj, l'Akbar, aujourd'hui, les pèlerins ont utilisé une plateforme qui s'appelle Hajj Nusuk. Aucune agence n'est habilitée, donc faites attention à surtout ne pas donner de l'argent à qui que ce soit. C'est directement avec la plateforme, vous savez, qui s'appelle Hajj Nusuk. H-A-J-J, plus loin, Nusuk, N-U-S-U-K. Donc, ni les guides, ni les agences ne doivent recevoir de l'argent. Le paiement se fait directement par virement avec votre carte bleue ou même avec plusieurs cartes bleues. Vous pouvez faire des virements sur plusieurs fois pour ce qu'on appelle remplir son portefeuille électronique. Et quand vous avez rempli votre portefeuille électronique, donc qui correspond à la somme du prix du forfait que vous avez choisi et que vous avez sélectionné, à ce moment-là, on attend l'ouverture des ventes. Il y a déjà 6500 forfaits qui ont été vendus. Vu la demande, puisqu'il y a 16 000 demandes, 16 000 pèlerins, 16 000 personnes qui veulent accomplir le pèlerinage cette année, alors que l'Arabie Saoudite n'a fourni que 6500. Et en vu la demande importante, elle a accepté d'accorder 3 000 autres visas, c'est-à-dire 3 000 autres forfaits de France, pour que les pèlerins de France puissent eux aussi partir à la Mecque. Donc ceux qui ont le souhait de partir à la Mecque cette année pour faire le Hajj, dépêchez-vous de vous inscrire et d'ouvrir votre compte sur donc Hajj Nusuk, de activer votre portefeuille, de le remplir, de le combler d'argent pour pouvoir payer avec. Et dès que le forfait ouvre, vous payez et vous suivez la procédure pour procéder au paiement. Ça, c'est pour le grand Hajj. Pour ce qui me concerne, notre prochain rendez-vous en matière de voyage, c'est la Omra du 1er mai au 11 mai. Un magnifique voyage qui vous attend en ma compagnie, où vous allez enrichir votre tête de connaissances en culture religieuse et votre cœur de spiritualité, inshallah ta'ala. Donc du 1er au 11 mai, vous appelez bien sûr le 06 29 25 35 00, c'est mon numéro de téléphone aussi pour vos questions. 06 29 25 35 00. Voilà, maintenant on peut prendre les éditeurs, ils sont arrivés.
Non, je vous laisse répondre à vos éditeurs, là. Aux gens, Imam Abdelali.
On y va.
Puisque vous donnez votre numéro de téléphone, autant répondre. Bah,
comme je voyais que voilà. Ben là, c'est bon, le standard est blindé, là.
On peut aller. Ali est avec nous. Ali, bonjour et bienvenue. Ali, allô.
Oui, bonjour. Bonjour Philippe, bonjour Imam Abdelali.
Oui, wa alaykoum salam wa rahmatoullah.
Wa alaykoum salam. J'aimerais poser une question, Imam Abdelali, concernant ma maman qui est malade et qui ne jeûne pas sur avis médical, concernant la fidya. Est-ce que je dois la sortir quotidiennement ou à la fin du mois du Ramadan?
C'est comme vous voulez. Quotidiennement, si vous voulez. Par exemple, si vous connaissez quelqu'un qui est pauvre à côté de vous et vous voulez tous les jours lui ramener un repas directement, mais un repas complet, hein, comme vous le prenez pour vous-même. Donc, ce que vous mangez pour vous, vous devez l'offrir à un pauvre. Donc, vous la donnez en argent, c'est 5 euros minimum. Et voilà, alhamdoulilah. Donc, 5 euros pour chaque jour non jeûné, que vous donnez soit tous les jours de manière journalière, ou soit en une seule fois, au début, au milieu ou à la fin du Ramadan, ou même après le Ramadan. La fidia n'est d'accord. pas dépendante du temps, n'a pas de temps, n'a pas de limite. Ça reste une dette, quoi. C'est tout. D'accord. Mais par contre, la fitra, non, la fitra, il faut la donner avant Salat l'Aïd.
D'accord, très bien.
Ça va, j'ai répondu à ta question, Khoya ?
Super, merci.
Ben écoute, je t'en prie, Khoya Rabbi.
Merci, Ali. Alors, Fatima est avec nous. Bonsoir, bienvenue. Oui. Bon ramadan, Fatima.
Oui, merci, Philippe. Voilà, je voudrais poser une question à l'imam, s'il vous plaît.
Avec plaisir.
Voilà, moi, j'ai une voisine de mère française et de père musulman algérien. Elle est née. Bon, donc, moi, je lui donne chaque soir un repas. Sadaqa.
Mais à qui vous donnez ce repas, à qui?
À la femme, à la française. Elle est malade, elle est altée, et à sa fille.
Et ils sont pauvres ou ils sont comment? Parce que c'est
non,
la
non,
question.
Non. C'est-à-dire que la mère, elle est malade. Elle est malade.
Oui, mais madame, attendez. Et vous voulez vous utiliser la fidia pour ça?
Non, c'est pas la fidia. Non, sadaqa.
Ah, sadaqa, d'accord, ok. Pas
voilà,
de problème.
Mais quand j'ai appris, ces jours-ci, j'étais pas au courant, elle m'a dit que j'étais malade. Aujourd'hui, quand je suis montée la voir, elle m'a dit, non, moi je fais pas le ramadan, je suis malade, je prends un comprimé pour la psychiatrie. Voilà. Alors là, j'étais un petit peu déçue, c'est pas déçue, mais je sais pas comment faire. Voilà. Bon, vous pouvez pas le prendre dans le médicament, par exemple, le soir. Dites-lui, non, il faut que je le prends à 10 heures.
Oui, elle est malade, cette personne.
Soi-disant qu'elle est partie voir un psychiatre, il lui a donné un traitement de...
Madame, en tout cas, ça, à la rigueur, ça ne vous regarde pas et ça ne me regarde pas, ça ne nous regarde pas à nous. Nous, ce n'est pas notre problème. Que quelqu'un décide de jeûner ou pas jeûner, ça ne change rien dans notre comportement. Mais, on ne doit pas changer de comportement et dire, voilà, si tu fais pas le ramadan, moi, je ne vais pas te donner ou je ne vais pas te faire ça. Non, c'est pas...
Non, c'est même ça.
Oui.
Est-ce que
halal ou
haram,
bien sûr, sadaqa, oui, le mushkil.
Le soir, c'est pas.
Oui, non, vous lui donnez même la journée, d'où le problème?
D'accord.
Vous lui donnez la journée, après si elle veut manger la journée, c'est son problème. Si elle veut pas manger, c'est son problème. Madame, je rappelle que le ramadan, on n'a pas à l'imposer aux gens. On n'a pas à l'imposer.
Non, c'est pas qu'ils m'ont...
Non, mais vous me dites, non, moi je ne vous donne pas que le soir comme ça, je ne prends pas la responsabilité si elle mange. C'est comme si vous prenez la responsabilité. Ça voudrait dire que les gens qui veulent commander, par exemple, de la nourriture dans un restaurant, ils vont l'acheter à 5 heures le soir.
Oui.
Eh bien, le restaurant, il ne peut pas leur vendre jusqu'au coucher du soleil, ils commencent à vendre.
Non.
Ben non, les gens, ils vont commander avant. C'est pareil. Si vous faites une sadaqa avant et que la personne décide de manger à l'heure du coucher du soleil ou avant... Parce qu'elle décide de ne pas jeûner, c'est son affaire.
Mais par exemple,
c'est pas. Là, ma fille haram, bil'aks, عندك أجر. عندك أجر على الصدقة. Au contraire, ça n'est pas haram, ça n'est pas interdit de faire ça, c'est au contraire récompensé. Parce qu'il faut parler en français pour que nos auditeurs comprennent. Donc, si vous faites une sadaqa à quelqu'un qui ne jeûne pas, vous êtes récompensé, d'accord? Qu'il jeûne ou qu'il ne jeûne pas, ça ne vous regarde pas.
Ah, d'accord. C'est ça.
Je vais aller plus loin. Vous faites une sadaqa à un chien. Yallah, chien, kelb. Le chien, benadem. Est-ce qu'il y a l'ajar ou là?
J'ai
l'ajar. Ah, oui, c'est là. Il y a kelb, il joue. Qui veut, benadem, il joue?
Là.
Voilà. Si un chien, on a la récompense. Pourquoi un être humain, on n'aurait pas la récompense?
Bil'aks,
vous avez l'ajar. Vous avez l'ajar ou là? Vous avez la récompense.
Merci.
Ah, Rabbi, t'qabbel.
Jamais,
Akhti, Rabbi, haoudak. Allah nous préserve.
Merci Fatima. Alors Ousmane Timira nous rejoint. Bonsoir Ousmane.
Bonsoir, que la paix soit sur vous. Très heureux d'être avec vous, d'écouter les réponses données par l'imam pendant que j'étais en train de prier, avec beaucoup de pédagogie.
J'essaye. Chokran, si, n'hésite pas, hein, si tu as des petites
pas de soucis,
compléments d'informations à donner que des fois j'oublie.
Merci beaucoup. En tout cas, j'espère que vous allez.
Simplement, parce que.
Non, alhamdoulilah, vous êtes habitués, on vous écoute.
Toujours allez. Besoin les uns des autres.
Allez, Dalila est avec nous au 01 53 48 3000. Dalila, bonsoir, bienvenue, bon ramadan.
Salam alaikum Philippe et salam alaikum
Dinam. Salam
alaikum. Et il faut dire salam alaikum Ousmane aussi.
Ousmane, à tout le monde.
Ah oui, Ousmane.
Vous dites salam alaikum à tout le monde.
Vous avez du mal à connaître le moment. À chaque fois, il y a des gens qui se trompent.
Je sais pas. C'est pas facile à retenir.
Ousmane, je sais pas.
Ouais, c'est pas terrible.
Faut penser le prince. Et si vous savez que le prince, c'est Ousmane.
Ousmane ibn Affan, c'est le nom qui, à Médine, est le plus connu. Parce que c'est le seul homme qui est mort des compagnons du prophète qui a encore un compte bancaire. Et qui a même des propriétés. Ah ouais. Il a des propriétés, des terrains agricoles, wow, avec des palmeraies et des usines. Et il a, radiallahu anhu, il est propriétaire d'hôtels qui sont à son nom et dont les revenus sont redistribués aux pauvres. L'intégralité des revenus sont redistribués aux pauvres. Mais c'est au nom, de, non pas Waqf Lillah, mais Waqf Sayyidina Uthman ibn Affan, avec un compte bancaire à son nom.
Oh bah comme quoi.
Wallahi, et donc c'est vraiment un personnage connu à Médine.
Alors Dalila, quelle est votre question ?
Alors, monsieur l'imam, ma question, c'est que je suis avec un homme qui est rentré dans la religion pendant plusieurs années. Et un jour, il m'a annoncé qu'il sortait de la religion tout simplement parce qu'il avait fait l'attestation deux fois par amour. Je lui avais pourtant bien expliqué que c'était quelque chose qui n'était pas possible, que c'était par adoration de Allah qu'on faisait, qu'on rentrait dans la religion. Et du coup, je me trouve dans une situation où je suis dans le péché et je porte ça sur moi.
Mais madame, c'est un converti, ce monsieur ? Il s'est converti au moment de votre mariage ou...
Ouais.
Alors, oui.
D'accord. Oui. D'accord. Et donc, il s'est converti au début et après, il vous a dit, non, moi, je ne veux plus croire.
Bah, il croit, mais pas en notre prophète.
Non, mais il ne croit pas en l'islam, c'est ça que je veux dire. Ma question, c'est qu'il ne croit pas en l'islam. Oui, pas en de toute façon, tout le monde croit en quelque chose, ça c'est sûr. La question, oui, c'est de croire en La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Cette formule-là, lui, ça, il n'adhère pas.
Voilà.
Il et n'adhère
moi,
pas.
Coup, ça fait 20 ans que je suis avec lui.
Ah oui.
Et maintenant, 20 ans. Ça fait 2 ans qu'il m'a annoncé ça. Et puis du coup, bah, mon monde s'est écroulé autour de moi. Et. Comme son fils, enfin, on a un fils en commun qui, lui, est bien dans la religion. Et du coup, moi, je sais que je suis dans le péché et je le vis très mal. Alors,
vous avez quel âge maintenant ? Vous avez quel âge ?
J'ai 52 ans.
Machallah, d'accord. Et vous êtes marié avec lui depuis combien d'années ?
20 ans, c'est ça ?
Ça fait 20 ans.
20 ans, machallah. Machallah. Bah, écoutez, faites des duas. Faites qu'Allah Azza wa Jalla, il apaise son cœur. Qu'Allah il guide son cœur. Voilà, faites des deux, faites beaucoup de deux, pleurez dans vos prosternations. Quand vous levez les mains au ciel, faites des deux et lâchez des larmes pour implorer Allah Azza wa Jalla de guider son cœur pour que vous puissiez rester dans une bonne relation avec lui et voilà.
Alors vous êtes bien d'accord avec moi que moi je n'ai pas écouté ce qu'on m'a dit. Tout ce qu'on m'a dit c'était quitte-le puisque tu es dans le péché avec lui et moi je leur ai dit mais c'est peut-être une épreuve pour moi. Donc si c'est peut-être une épreuve pour moi, je patiente et peut-être que Inch'Allah, Rabbi, ben, il m'accordera de le voir rentrer vraiment dans la religion et cette fois-ci y rester. Donc j'ai pris la bonne décision de patienter.
Ben, écoutez, si vous patientez avec cette intention-là, je ne pense pas qu'Allah Azza wa Jalla vous en tiendra à rigueur, ça c'est sûr. Donc essayez de toujours dans cette idée-là de vouloir vous remettre avec lui. Mais effectivement, vous ne pouvez pas le considérer comme votre conjoint officiellement d'un point de vue shar'i. Min nahi shar'iya, lam ya'ud zawjuki. Ça, c'est, il faut bien. Mais rester avec lui, c'est pas interdit. Il y a pas de difficulté. Mais maintenant, il faut lui expliquer que si tu veux qu'on reste, il faut en même temps lui expliquer la religion. Il faut aussi lui donner envie, le séduire.
Il faudrait déjà comprendre quelles sont les raisons pour lesquelles il ne croit plus et essayer de trouver quelqu'un qui puisse discuter et échanger avec lui
tout à fait
intelligemment et lui donner les arguments. À partir de là, vous verrez.
Alors voilà ce qu'on pouvait vous dire ce soir, Dalila, mais on reviendra sur le sujet puisque c'est un sujet que vous avez évoqué beaucoup ce mois de Ramadan. Allô l'imam, jusqu'à 18h au 01 53 48 3000, 01 53 48 3000.
Ramadan & Co. Reviens dans un instant.
Suivez Ramadan & Co avec le Secours Islamique France.
17h-20h, Ramadan & Co avec Philippe Robichon et l'imam Abdelali Mamoun sur Beurre FM.
Et Ousmane Timira qui est avec nous sur ce plateau à 18h. Nous retrouverons Kamel Chekat pour sa chronique Les contradictions supposées du Coran. Mais pour l'instant, c'est Allô d'Imam au 01 53 48 3000. Et nous accueillons Salim. Bonsoir, bienvenue et bon Ramadan, Salim.
Allô?
Salam alaikum Salim, tfaddal.
Salam alaikum, Ramadan Mubarak à tout le monde.
Allah ybarak fik akhoui.
Oh, il a une voix apaisée, Salim. Ah.
Tu peux t'approcher du combino pour qu'on entende bien.
Et comme ça, c'est
bien. Voilà, c'est bien, c'est magnifique. Mieux, vas-y. On t'écoute.
Voilà, j'ai juste une question simple. Je voulais savoir qui a nommé ou qui a donné des titres des chapitres du Coran.
C'est Sayyidina Jibril, c'est Allah Azzawajal qui l'a transmis à Jibril, qui lui-même l'a transmis au prophète alayhi salatu wassalam. Le Coran, dans sa première descente, qu'on appelle...
Non, excusez-moi.
Oui.
Non, je parle des titres, par exemple, sur le Rahman.
C'est ce que je viens de te dire, ben, je t'ai répondu, c'est ça ma réponse. J'ai compris ta question. J'ai dit, de la même manière que le Coran a été révélé par Jibril alayhi salam, il a révélé en même temps le nom des sourates. D'accord. C'est pas les compagnons ou quelqu'un d'autre qui va s'amuser à dire bah tiens j'aime bien donner le nom à un tel. Non. Et c'est souvent le nom qui est cité dans la sourate. Tu vas forcément le nom. Par exemple sourat al-Baqarah. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً. Tu vas retrouver le mot baqara dans la sourate. آل عمران إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين في سورة آل عمران. Et ainsi de suite. Et donc vous trouverez à chaque fois le mot qui nomme la sourate dans la sourate elle-même. Et c'est bien entendu, comme je le dis, Allah Azza wa Jalla qui l'a transmis à Jibril, qui lui-même l'a transmis au prophète de la même manière qu'il a révélé l'intégralité du Coran.
Apparemment, il avait une autre théorie.
Hein, vas-y.
Il y a une autre version,
Non, mais ça, ce que je te dis, c'est ce que disent les ulama, de manière consensuelle, en plus.
On va écouter ce qu'ils disent.
T'as autre chose à dire ?
Non, non, c'est juste... j'ai entendu une autre version, que c'était les savants qui avaient donné le titre.
Non. Les savants n'ont pas le droit de faire ça. De quel droit ils auraient ? Qui c'est ces savants qui ont le droit de faire ça ? Qui leur a donné ce pouvoir-là ? Cette légitimité, cette procuration de Dieu de faire ce genre de choses ? Le Coran, dès le début, le prophète lui-même, il va dire que cette sourate s'appelle Ar-Rahman, celle-là s'appelle Al-Waqi'a, celle-là s'appelle Hadid, etc. C'est le prophète qui transmet à ses compagnons que la sourate que je viens de vous réciter dans la prière, c'est la sourate Intel. D'accord ? C'est le prophète qui, de son vivant, on a même plein de hadiths où le prophète cite les noms de ses sourates dans des événements, des situations qu'il a vécues dans sa vie. Donc on sait que le prophète lui-même, déjà, de son vivant, nous a transmis les noms des sourates dans les hadiths.
Merci Salim pour votre question. Leïla,
très pertinent, j'aime bien la question.
Leïla est avec nous au 01 53 48 3000. Bonsoir, bienvenue et bon ramadan, Leïla.
Oui, merci beaucoup. Salam alaikum.
Alaikum salam. Fadlirti.
Alors j'ai juste une question, en fait. Voilà, je suis atteinte d'endométriose. Donc pour ceux qui connaissent ça, c'est des saignements très abondants, très longs, des douleurs assez violentes. L'impact, donc, c'est une anémie chronique qui s'installe, une fatigue chronique qui s'installe, etc. Bref. Et ma question, en fait, c'est que chaque année, je fais mon ramadan, il n'y a pas de souci, je le fais depuis que j'ai 6 ans, j'ai aucun problème. Mais la période, on va dire, de crise, qui dure à peu près 15 jours, chaque année, j'essaye, en fait, de rattraper ces jours-là. Et c'est compliqué, c'est difficile. J'arrive jamais à faire les 15 jours ou les 17 jours où j'ai pas jeûné.
Et pourquoi vous avez pas jeûné ? Qui c'est qui vous a dit de ne pas jeûner ?
Non, je jeûne. Mais quand je suis en période
Mais oui, mais c'est ça. Bah, je vous parle dans vos périodes de crise. Attendez, vous avez des périodes de crise. C'est parce que donc à ce moment-là, vous ne pouvez pas jeûner, ou c'est vous qui décidez de
non c'est parce qu'elle a ses règles.
Oui, mais c'est pas des règles. Parce que là, c'est de la métrorragie, c'est lié à sa maladie. Exactement. Donc, c'est ce qu'on appelle istihada. Damu istihada. Wa damu istihada la yamna' min as-siyam wa as-salah. Ces pertes de sang qui ne sont pas liées à vos règles menstruelles, qui sont liées à un autre problème, donc de médical, par exemple, eh bien, ne vous empêchent ni de jeûner, ni de prier. Donc, vous n'avez pas à rompre le jeûne pendant 17 jours. Déjà, ça n'existe pas. 17 jours de règles, c'est pas normal. En général, ça dépasse pas 10 jours, hein, des règles. 10, allez, à un avis chez les Hanafites, jusqu'à 15 jours, mais pas plus. Plus de 15 jours, c'est pas normal. Et encore, moi, je dirais plutôt de l'avis de 10 jours, au grand maximum. Donc, si vous avez des pertes, avant d'être malade, c'était combien vos jours de règles ?
8-9 jours.
Voilà, donc 9, ça doit être le maximum. Même quand vous êtes malade, si vous comptez 9 jours de règles, et si vous continuez à avoir des saignements après, vous n'en tenez pas compte. Vous faites votre douche et vous reprenez la prière et le jeûne. D'accord. Et ça, c'est tout au long de l'année comme ça. C'est pas que pendant le ramadan.
Ok, barakallahoufik.
Donc, par rapport à ces années,
parce qu'il y a 4 ou 5 ans, j'avais posé la question pareille à un imam, je ne citerai pas le nom, et qui m'avait dit justement que non, c'était à rattraper.
Le jeûne, oui, il faut le rattraper, le jeûne.
Mais est-ce qu'elle peut sortir la sadaqa à la place?
Ah non, 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 attendez. Si vous ne pouvez pas jeûner parce que votre maladie est chronique et elle vous empêche de jeûner de manière perpétuelle, là, vous payez la fidya. Mais si votre maladie n'est pas chronique et que vous pouvez jeûner, vous êtes en mesure de jeûner, vous ne pouvez pas verser la fidya parce que vous pouvez jeûner.
C'est d'abord. Il s'agit de rattraper 4 ans.
C'est 4 mois, tu veux dire 4 fois 4 mois.
Oui, à peu près. Mais c'est pas, mais les 4.
Les 4. C'est même pas. C'est
pas,
même
pas 4 fois 4 mois.
Écoutez l'auditrice. Ouais.
Excusez-moi, je me permets de vous couper. Non, non, j'ai jeûné toutes ces années. Hein. J'ai jeûné.
Oui, elle a jeûné. Ans, elle a manqué des jours.
Sauf pendant les périodes de crise. Voilà. Et après le mois d'Abéni, le mois de Ramadan, j'essaie de rattraper tout au long.
Ma soeur, écoutez bien. La fidya, le Coran, il est clair. Wa ala alladhina yutiqunahu. Yutiqunahu ay la yatahammalun. Ataqa aks taqa. C'est le contraire de taqa. Mathalan, on va dire, il y a d'autres exemples dans le Coran qui, on utilisera le même radical, mais ruba'i, ça donnera un sens, et tulati donnera un sens contraire. Par exemple, qasata veut dire être injuste. Aqsata voudra dire, au contraire, être juste. Donc, aqsata qui veut dire être juste, qasata veut dire être injuste, et bien pareil là, c'est yutiq min ataqa. Wa yatiqu ay yatahammal. Donc Dieu n'a pas dit yatiqunahu fidyatut ta'am, ceux qui peuvent jeûner, eh bien versent la fidya, mais au contraire ceux qui ne peuvent pas le jeûner doivent verser la fidya. Vous êtes capable de jeûner. Donc pourquoi vous allez acquitter de la fidya? D'accord?
Ah non, mon but c'est pas d'appliquer la fidya. Au contraire, comme je vous ai dit, je jeûne depuis que j'ai 6 ans, je jeûne tout au long de l'année. Quand je vais bien, dès que je fais mes bilans.
Eh ben c'est bon, donc vous avez rattrapé les années précédentes en jeûnant tous ces jours.
Non, rattrapé apparemment.
J'ai des périodes de grosse fatigue et grosse anémie, on va dire hémoglobine très très basse.
Attendez, vous me dites que courant de l'année vous faites des jeûnes surérogatoires, oui ou non?
Quand je peux. Quand je
oui, mais vous en faites, dites-moi. On va pas. Oui, je vous parle pas du futur, je parle du passé. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on regarde dans le passé que vous avez, est-ce que vous avez jeûné beaucoup des jeûnes surérogatoires, oui ou non?
Oui.
Eh bien, ces jours-là compensent les jours du Ramadan que vous n'avez pas jeûné. C'est bon.
D'accord. Donc, très bien. Pas dans les calculs.
Non, c'est bon. Vous rattrapez vos jours non jeûnés que vous avez passés par des jeûnes surérogatoires ou des jeûnes tout simplement avec l'intention. C'est préférable. Mais si vous ne faites pas l'intention, Yawm al-Qiyam, de toute façon, Dieu vous comptabilisera combien de jours vous devez et combien de jours de Ramadan obligatoire vous devez et combien de jeûnes surérogatoires qui viennent compenser ces jours que vous n'avez pas jeûné durant le mois du Ramadan. Ousmane. D'accord.
Oui, moi je souscris tout à fait à ce que vient de dire le professeur. C'est ce que disent les savants de façon générale. Bien qu'il y ait beaucoup de pas de désaccords, mais de discussions autour de ce passage du Coran dont notre frère vient de parler.
Il y en a qui disent qu'il est mansour.
Moi, il y en a qui disent qu'il est mansour. Il y en a qui disent même qu'il est mansour à moitié.
Mais c'est quoi mansour? C'est quoi mansour?
C'est abrogation.
Abrogé.
Moi, je suis pas dans
parce qu'ils traduisent yotekunahu comme étant celui qui est capable de jeûner, qui ne veut pas jeûner malgré tout, il verse la fidya. Alors que le verset coranique qui suit après, qui dit, faman shahida minkum shahra falyasum, celui qui est présent lors de ce mois doit le jeûner, au verbe à l'impératif lam al-amr, falyasum, le lam là, c'est lam al-amr en arabe, qui veut dire que c'est obligatoire.
Mais ce que je veux dire par là, c'est que, à mon avis, et c'est la lecture que je fais de ce passage du Coran, il comprend les deux possibilités. Parce que le passage dit, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba alalladhina min qablikum la'allakum tattaqun ayyama ma'dudat. Très bien. Ensuite, il dit, faman kana minkum maridan, celui qui parmi vous est malade, aw ala safarin, ou qui est en état de voyage, fa'iddatun min ayyamin ukhra. Alors, il doit remplacer par d'autres jours. Wa alalladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. La divergence est ici. Ensuite, il continue et il dit wa antasaddaqu wa antasumu
khayrun lakum
in kuntum ta'lamun. Faman tasaddaqa
faman tatawwa'a khayran fa huwa
khayrun lahu wa antasumu khayrun lakum in kuntum ta'lamun. Celui qui se permet de donner un peu plus en surérogatoire, cela est bien pour lui, mais que vous jeûniez, cela est mieux. Ce que je comprends de ce passage, et après on pourra en discuter, c'est que les deux possibilités sont données à ceux qui soit sont malades, soit sont en voyage, ou soit sont en situation de vieillesse trop grande. Soit ils jeûnent, soit il donne. Les deux possibilités, pas soit l'un, soit l'autre. Et pour ceux qui sont en état de vieillesse, ils ne font que donner parce qu'ils ne peuvent pas jeûner. D'où le fait qu'à un moment donné, il dit, mais si celui qui fait plus, c'est-à-dire il donne de l'argent et en même temps il remplace par le jeûne, cela est mieux. Mais que vous jeûniez, cela est bien meilleur entre le choix de donner seulement et le fait de jeûner. Et on arrive à ainsi réunir le passage sans parler d'abrogation. Ce qui permet à madame, par exemple, si elle décide de ne pas, notamment pour les femmes enceintes, ceux qui allaitent, ou madame, par exemple, si elles ont de nombreux jours,
qui est malade,
de donner des, une fidia à la place de
jeûne. Mais jeûner. Ça sera l'un ou l'autre, ça ne sera pas les deux. Ça
sera si pas elle fait les deux, c'est femme enceinte à Reyla à ce moment-là.
Oui, mais étant donné que là, on ne va pas trop rendre la vie difficile, on va dire à madame, vous pouvez rattraper vos jours de jeûne si vous le pouvez, sinon, bah, vous versez la fidia. Voilà en résumé la réponse à votre question.
Et on accueille Sophia qui est avec nous au 01 53 48 3000. Sophia, bonsoir, bienvenue et bon ramadan.
Bonjour à tout le monde et bon ramadan à tout le monde. Salam alaikum.
Ramadan mubarakatuh.
Voilà. C'est ma question. Je commence par quoi? C'est bien de faire sadaqa déjà, mais voilà où fait moule l'aoud. Sadaqa, c'est bien. Comme ça. Mais moi, la dame qui apporte à manger à une dame française, c'est bien, c'est une sadaqa, c'est très bien. Je sais pas. Bon, mais dans son immeuble, il n'y a pas des gens franco-musulmans. Moi, c'est mon cas. Qui font ramadan, je fais ramadan, je suis super contente, ça me fait beaucoup de bien. Bon, je comprends tout. Moi, je suis ex-fonctionnaire de... Il y a une collègue qui m'appelle toujours, elle me dit, alors ça, c'est une heure ironique. Je suis à cette semaine, je vais la lire. Ça se passe bien ton ramadan? Je dis oui, c'est très bien, je me sens parfait, très bien même. Elle me dit, oh, t'as même pas le droit de boire un peu d'eau? Je dis, mais écoute, ça regarde que moi. Et puis, je dis, non, on n'a pas le droit de boire même pas de l'eau et plein d'autres choses. Bon, ben, je te laisse, bonne continuation. Et celle-là, elle me dit, en tout cas, moi, il y a des voisins musulmans qui m'apportent du couscous, tout ça. Comme je ne le finis pas, je le jette.
Mais madame, votre question c'est quoi? On va pas entendre toute l'histoire de votre vie. On est là pour répondre des questions.
C'est intéressant.
C'est intéressant, mais le standard il est pas
juste. Moi je trouve ça intéressant.
C'est injuste envers ceux qui attendent sur le standard, Philippe. Faut pas
oui, d'accord. Je comprends, mais j'ai attendu un petit peu aussi, monsieur.
Ah, oui, mais il y a encore plein de monde derrière vous. On est là pour poser une question, pas pour raconter toutes vos bavardages, vous discutez avec votre voisinage. Votre question c'est quoi?
Il y a des gens dans son immeuble, à cette dame qui font ramadan. Et ce serait bien qu'elle le ramène à manger aussi.
Voilà. Mais on ne sait pas. En tout cas, elle a l'envie de donner à cette femme qui est malade.
Ah oui.
Elle a envie, c'est son affaire. Donc, Allah yakbel. On a besoin de nourrir tous les nécessiteux. Dans le Coran, il n'a pas cité si la personne jeûne, si elle est musulmane ou pas. Il dit dans le Coran, innama sadaqatu lil fuqara wal masakin. Il n'a pas dit fuqara al muslimin, il n'a pas dit fuqara al sa'imin, il n'a pas dit fuqara al musallin, non. Aïm faqir, yajouz lahu sadaqa. Hakada al jawab ala kalam illah azza wa jal. Il a généralisé, il a globalisé que la sadaqa se faisait à toute personne dans le besoin. Qu'elle soit musulmane, pas musulmane, qu'elle ramadan ou pas ramadan. Madame annu faqir muhtaj, mudoula. Kiman mudoul kilb, hachaki. Voilà.
Voilà, Sophia, merci d'avoir partagé.
C'est des sujets qu'il faudrait qu'on reprenne. Hein.
Mais c'est des bons sujets, de toute façon, qui reviennent tous les ans. Merci, Sophia, pour votre intervention. Kamel Chekat est avec nous ce soir, enfin, chercheur en théologie, membre fondateur des Oulémas du Sahel, pour sa chronique « Les contradictions supposées du Coran ». Bonsoir, bienvenue, bon ramadan, Kamel.
Salam
alaikum. Wa alaikum
salam. Salam alaikum, Cheikh
Abdel Ali. Alaikum salam, marhaban, Cheikh Nalfadel, kif halak.
Ça va?
أي تنويرات ستنورنا بها في هذه الليلة في هذه الأمسية إن شاء الله ربي يحفظك
La supposée contradiction à laquelle nous nous intéressons aujourd'hui concerne les prophètes de Dieu, alayhim assalam.
Masha'Allah.
Doit-on les traiter tous de manière égale ou se trouvent-ils parmi eux qui bénéficient d'un statut plus élevé que celui d'autres? Alors, dans le Coran, au verset 285 de Sourate al-Baqarah, il est dit « Le messager a cru en ce qu'on a fait descendre vers lui venant de son Seigneur et aussi les croyants. Tous ont cru en Allah, en ses anges, à ses livres et en ses messagers en disant « Nous ne faisons aucune distinction entre ces messagers. » Ils ont dit « Nous avons entendu et obéi, Seigneur, nous implorons ton pardon, c'est à toi que sera le retour. » la tendance, c'est-à-dire consistant plutôt à traiter tous les messagers de la même manière ou à pied d'égalité, vous allez la retrouver dans d'autres versets du Coran. Nous avons le verset 84 de Sourat Al-Imran qui nous dit « Nous croyons à Allah, à ce qu'on a fait descendre sur nous, c'est-à-dire les musulmans, à ce qu'on a fait descendre sur Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob et les tribus, et à ce qui a été apporté à Moïse, à Jésus et aux prophètes de la part de leur Seigneur. Nous ne faisons aucune différence entre eux, et c'est à lui que nous sommes soumis. » Ce verset ressemble, il est presque identique au verset 136 de Sourate Al-Baqarah. On nous dit, tout ceci est bien beau, sauf que il y a un problème avec le verset 253 de Sourate Al-Baqarah, où Dieu dit « Tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd » Parmi ces messagers, nous avons favorisé certains par rapport à d'autres. Et il en est à qui Allah a parlé. Il en a élevé d'autres en grade. À Jésus, fils de Marie, nous avons apporté l'épreuve et l'avons fortifié par le Saint-Esprit. Et si Allah avait voulu, les gens qui vinrent après eux ne se seraient pas entretués après que l'épreuve ou les signes leur furent venus. Mais ils se sont opposés. Les uns restèrent croyants, les autres furent infidèles. Si Allah avait voulu, ils ne se seraient pas entretués. Mais Allah fait ce qu'il veut. Alors, beaucoup nous disent qu'il y a contradiction. À trois reprises, le Coran indique que l'on ne doit pas faire de distinction entre les prophètes de Dieu, alayhimu salam. Et au verset 253 de Sourate Al-Baqarah, la distinction est manifeste. Nous dirons en réponse que dans les trois versets qui insistent sur le fait que l'on ne doit en aucun cas faire de distinction entre les messagers d'Allah qui sur eux, il est dit « La nufarriqu bayna ahadin minhum » Nous ne faisons aucune distinction entre ces messagers ou entre eux. C'est nous qui parlons. Ceci nous concerne, nous, les musulmans. Mais dans le verset 253 de Sourate Al-Baqarah, c'est Dieu qui dit qu'il a favorisé certains messagers ou certains prophètes par rapport à d'autres. Ces messagers qu'il a favorisés sont qualifiés dans le Coran de « ulul azmi min ar-rusul », c'est-à-dire les messagers, bon, je traduis un peu à la volée, doués d'endurance, ceux qui ont fait preuve de la plus grande fermeté. Et ces messagers sont cités au verset 35 de Sourate Al-Ahqaf qui dit « Endure, ô Muhammad, donc, comment endurer les messagers doués de fermeté et ne te montre pas trop pressé de les voir subir leur châtiment. Le jour où ils verront ce qu'il leur est promis, il leur semblera qu'ils n'étaient restés sur terre qu'une heure d'un jour. Voilà une communication qui sera donc anéantie, sinon les gens pervers. » Donc ces messagers doués d'endurance, selon la tradition islamique, sont Noé, Abraham, Moïse, Jésus et Mohammed alayhi salam. Dans l'Ancien Testament, Abraham et Moïse, paix sur eux, ont la primauté sur tous les autres messagers. Isaac passe pour les Juifs avant Ismaël, ça ne pose aucun problème. Dans le Nouveau Testament, Jésus est rehaussé au rang de divinité et dépasse de ce fait Moïse. Ça ne pose là encore aucun problème. Et quand Dieu fait part de cette distinction accordée à certains d'entre eux, certains crient à la contradiction dans le Coran et ça devient un problème. Donc tous les versets cités précédemment sont des versets qui nous concernent nous. Maintenant, pour ce qui est de Dieu, il fait ce qu'il veut. S'il veut favoriser un messager par rapport à un autre, c'est lui qui décide de ce qu'il a envie de faire, tout simplement. Et puis, j'ajouterai pour ceux qui nous disent, vous les musulmans, vous n'avez Dieu, vous n'avez de regard que pour Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, et puis vous faites pratiquement preuve de polythéisme quand vous dites, « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad ar-Rasulullah ». Ceci n'a rien à voir avec aucune forme de polythéisme ou d'associationnisme. À l'époque de Jésus, c'était « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Isa Rasulullah ». Et à l'époque de Moïse, c'était « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Musa Rasulullah ». Maintenant, nous sommes avec ce qui a été légué par le sceau des messagers, C'est donc lui qui a la primauté, tout simplement. Voilà donc pour la supposée contradiction d'aujourd'hui. Je vous remercie d'y avoir prêté attention et à demain, Inch'Allah. Haftorkom et puis prenez soin de vous.
Donc si je résume bien ce que tu dis, Cheikh Saad Al-Fadl, Dieu a le droit de faire la différence entre ses prophètes, c'est ce que Dieu dit, mais nous les humains, comme dit le Dieu le Coran, nous ne faisons pas de différence entre ses prophètes. C'est ça ?
Nous avons pour commandement de ne pas faire, de ne point faire de distinction entre eux.
Voilà. Mais nous faisons quand même une distinction. C'est la charia de Mohammed qui est la nôtre.
Oui, bien sûr, nous avons une préférence pour Mohammed. Même Allah subhanahu wa ta'ala a une préférence pour Mohammed.
Sallallahu alayhi wa sallam.
Si vous lisez les Védas ou les Upanishads, et quand vous lisez l'Ancien et le Nouveau Testament, vous allez trouver une multitude de versets qui annonce justement cette venue de Mohammed. Dans les Védas avec le Kalkia Upar, la chose est un peu plus flagrante, dans la mesure où il est dit que le Kalkia Upar, c'est-à-dire le dernier, le sauveur de l'humanité, celui qui viendra vers la fin des temps, le nom de son père, c'est Bhagawat Vishnu, ce qui se traduit par Abdullah. Le nom de sa mère, c'est Sodanib, qui se traduit par Amina. Et puis, il recevra les écrits ou les écritures saintes dans une grotte. Les traductions, si vous lisez en anglais, il est dit in a cave. Ça veut dire grotte, ça ne veut pas dire cave. La cave, en anglais, c'est basement. Donc, si vous lisez tout ce qui a été dit, par exemple, par ceux qui ont fait des études critiques sur les deux testaments, l'Ancien et le Nouveau, du moins selon ce que disent les chrétiens, vous allez trouver pratiquement une cinquantaine, au moins une cinquantaine de passages qui indiquent que c'est Mohammed. Donc, si tel est le cas, nous avons une préférence divine pour le sceau des messagers, ce qui est pratiquement tout à fait normal. Mais quand on dit qu'il les a préférés les uns aux autres, il a parlé à Moïse selon le Coran, et donc il l'a gratifié d'un honneur qu'il n'a pas donné à d'autres messagers. Il a créé Jésus son père. C'est aussi une marque qu'on ne retrouve pas avec d'autres prophètes. Et donc, c'est comme ça, c'est ainsi que se distingue cette préférence divine. Ça ne veut pas dire qu'il va regarder un de ses prophètes et se détourner de l'autre. Nous ne parlons pas de préférence humaine, mais de préférence divine.
Très bien.
Kamel Chekat sur BFM, enfin, merci Kamel en tout cas. Et puis,
allez, je comprie mon frère.
Allah yjazakher. Allah yjazakher. Khalik lina l'umma l'islamiya, chère, khatibata, inshallah.
Ousmane, tiens, une sourate bien comprise. Réveil.
Il était dans la méditation.
Non, je sais, il était
Kamel Chekat.
Je sais où il faut plier.
La transition est compliquée.
J'étais avec les anges là.
Il faut lui donner un peu de temps.
J'étais avec les anges. Le passage, en fait, j'hésitais entre un passage que je voulais citer tout à l'heure ou en parler tout de suite. Mais on est dans la spiritualité, donc pas de polémique.
Non.
Hein, c'est
non,
vrai.
Ne me regardez pas comme ça.
Donc il y a un passage du Coran qui m'a interpellé en ce moment et peut-être qu'on reviendra dessus, qui est souvent mal comprise. Le fameux passage qui dit que soi-disant une captive peut être devenir une esclave et permettre à ceux qui l'ont capturée de devenir son maître, et puis elle devient son objet sexuel. Et puis il y a des gens qui mettent des traductions de la sorte et qui disent que c'est ainsi que le Coran permet à ce que nous ayons des esclaves et mal les traiter. La logique ordonne à ce que nous ne puissions pas croire en cela et que l'on remette en cause une telle compréhension. Deuxième chose, le passage est à relier lorsqu'il dit حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ, et ensuite il dit والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم. Ici le passage est à relier tout simplement les femmes mariées
vous ne devez pas les épouser. Et quand il dit sauf celles qui sont vos dépendantes, le sauf est à relier avec l'interdiction. C'est-à-dire, toutes les femmes que je vous ai interdites plus haut, de cette interdiction sort les femmes qui sont vos dépendantes, et avec elles, vous pouvez avoir mariage et mésalliance, puisque le passage qui vient juste après parle de la façon dont nous devons épouser ce genre de femmes, quand il dit فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ طَوْلًا أَنْ يَنْكَحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ. Et ceux qui n'ont pas les moyens d'épouser des femmes de haut rang, libres et nobles, alors parmi celles qui sont parmi vos dépendantes, qui vous servent, qui sont vos servantes, vous êtes les uns issus des autres. Épousez-les avec la permission de leur famille et donnez-leur de leur dot en cherchant avec elles, non pas la débauche ou des amantes, mais plutôt la chasteté et le mariage. Le passage est clair. Le problème, c'est que nous isolons les passages, nous en faisons ce que nous voulons, selon le point de vue impérialiste ou quelquefois dominateur, que quelquefois, les musulmans ont eu à appliquer au détriment des orientations du Coran. Une telle dinguerie, je vais dire le mot, de dire que le Coran permet à ce qu'on couche avec une femme qui n'est pas la nôtre parce qu'on l'a dominée et parce que c'est une captive, n'importe quelle personne saine d'esprit peut dire c'est faux. Et c'est aux savants de revoir leurs interprétations et non au Coran d'être soumis à une telle violence.
Mais ça, c'est effectivement un peu un sujet qu'aurait pu aborder Kamel Chekat, et peut-être qu'il va l'aborder durant ce mois béni et du Ramadan, et tout à tout.
J'ai regardé plein d'introductions d'interprétations
aujourd'hui,
là-dessus.
Il y a dans le droit musulman un chapitre énorme sur l'esclavage, etc. Et tout qu'est-ce qui est permis, ce qui n'est pas permis. Donc là, tu évoques une condition pour avoir des rapports avec une servante ou une femme qui est sous notre protection, sous notre tutelle, c'est qu'on fasse un acte de mariage. C'est-à-dire qu'elle soit...
Le Coran demande à ce qu'il y ait mésalliance, parce que eux, à leur époque, dans les sociétés, jusqu'à présent, dans certaines sociétés, on peut pas épouser des femmes qui sont d'un rang inférieur. C'est interdit. Et c'était le cas chez eux à l'époque. Donc, ce que le Coran permet ici, quand il dit illa ma malakata imanukum, ça veut dire que ce que vous vous interdisiez auparavant de mariage avec ces femmes, je le sors de la liste de l'interdit, et quand vous les épousez, quand vous voulez commercer avec elles, il faut les épouser dans un cadre. Il suffit de lire Les Misérables de Victor Hugo pour se rendre compte que certains princes ou riches vont un peu se balader dans les campagnes, dans les banlieues, dans les quartiers, font un peu les séducteurs, font miroiter de belles choses à ces jeunes femmes un peu ignorantes, elles se retrouvent enceintes et ciao. Donc il s'agit de mettre un cadre. C'est ça que le Coran essaie de mettre ici, et non pas le droit d'avoir des captives, d'en faire des esclaves et faire n'importe quoi.
Même si c'est hors sujet aujourd'hui, puisqu'il n'y a plus de captives, il n'y a plus d'esclaves.
Aller dans les pays du Moyen-Orient,
il n'y en a pas. Non, il y en a pas.
Vous vous rendez compte des dingueries qui existent.
Non, mais il n'y a pas d'esclaves. Ce sont simplement des personnes qui sont peut-être exploitées malhonnêtement, mais elles n'ont pas le statut de...
Non, pas d'esclaves. Mais le maître, en moment, il dit, elle travaille pour moi, donc je peux.
Non, il n'a pas le droit.
Ah, ça c'est sûr.
Il faut, s'il veut avoir des rapports intimes avec elle, il faudra un mariage. Ça c'est clair.
L'ADN, c'est en direct tous les soirs du mois de Ramadan sur Beurre FM. Ce soir, c'est à 19h, Imam Abdelali, qu'on entendra votre belle voix, The Voice.
Ramadan & Co revient dans un instant.
Suivez Ramadan & Co avec le Secours Islamique France.
17h-20h, Ramadan & Co avec Philippe Robichon et l'imam Abdelali Mamoun sur Beurre FM.
Et on rêve tous de changer le monde tous les soirs avec Ousmane Timéra.
Oui, comme disait le rappeur, on rêve tous de changer le monde, même si c'est en cachette. Et Dieu nous demande de nous changer pour changer le monde. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dieu ne change pas l'état d'un peuple tant que les membres de ce peuple ne changent pas ce qu'ils ont en eux-mêmes. Nous parlions hier des 5 piliers de l'islam cosmique, de la religion cosmique. Ces règles permanentes que nous voyons dans la création et dans son évolution. Mais il y a des obstacles, il faut en parler. Il y a des obstacles symboliques de la religion quand elle se transforme en religion, en déligion, en idéologie. Il y a les obstacles matériels quand la politique devient un moyen de domination. Nous parlerons de tout cela, mais il nous faut parler un peu de nous. De nous musulmans qui aimons dire que nous sommes les meilleurs. De nous musulmans qui pensons que nous sommes les seuls à devoir aller au paradis. De nous musulmans qui nous posons des questions, est-ce que nous avons le droit de donner à manger à des non-musulmans ? Oh, mon Dieu ! de nous musulmans qui pensons que, attention, quelqu'un qui fait le bien tous les jours de sa vie jusqu'à sa mort, qui se bat pour la justice et qui meurt, non, il ne peut pas aller au paradis. Non, il doit aller en enfer. Parce que toi, feignant que tu es, qui n'a rien foutu de ta vie, tu es là, posé, tu as bien sûr le front taché, parce que tu te prosternes quelquefois sans réflexion, et tu dis que toi, tu mérites d'aller au paradis. Oui, tu n'as rien fait, mais tu mérites d'aller au paradis. Tu n'as juste que dit quelques formules, mais tu mérites d'aller au paradis. Il faut que nous cessions d'avoir ces obstacles acosmiques que nous portons. Il est facile, effectivement, de dire que... la civilisation mondiale, que la société dans laquelle nous nous trouvons est pleine de contradictions, qu'elle est intolérante, qu'elle est raciste. Mais combien de racisme se trouve en nous? Combien d'intolérance se retrouve en nous? Combien de salles noires, de kahlouches existent parmi nous? Combien de guerres ethniques et interethniques existent parmi nous? Le Coran est grand, mais nous sommes petits et nous voulons réduire le Coran à notre petitesse. Et il nous dit... Ceux qui ont la foi, ceux qui sont juifs, ceux qui sont chrétiens, ceux qui sont sabéens, quiconque fait le bien, quiconque croit en Dieu, croit au jour dernier et fait le bien, ils n'ont aucune crainte quant à leur avenir et ils n'auront pas à être tristes. Ils rentreront au paradis et nous crions, nous vociférons même l'abrogation. C'est pas écrit abrogé, mais vous voyez des musulmans qui viennent avec la haine baveuse, qui viennent vous voir en vous disant « tu peux pas dire ça ». Donc ça veut dire que moi, je vais aller au paradis avec eux, ça veut dire que moi je travaille tous les jours. C'est ce qu'une dame m'a dit un jour, quand je lui parlais de ce passage, ça n'est pas possible. Moi, ça veut dire que nous, je l'ai dit à mes enfants, que nous les seuls, on ira au paradis parce qu'on fait la prière et que eux, ils ont rien fait de leur vie, ils vont aller au paradis. Non, ça, jamais. Ah, c'est toi qui contrôles le Coran ? C'est toi qui décides de ce que Dieu dit. Ne méritons-nous pas ce qui nous arrive à nous musulmans avec de telles bêtises dans l'esprit? Ne méritons-nous pas ce qui nous arrive, nous musulmans, à force de vouloir faire de la religion un sujet de haine? La religion qui est capable de proposer un projet de civilisation universelle et cosmique est l'islam. Mais est-ce que les musulmans sont à la hauteur de cela? Non, je ne crois pas. Je crois que nous sommes pires que ce que nous reprochons aux gens du livre qui ont falsifié leur livre. Nous n'avons pas pu la falsifier, la révélation. On n'a pas pu, mais on a posé des interprétations qui font de la religion une religion communautaire, une religion restreinte, une religion de seulement nous et les autres aller en enfer. Pourtant, le livre ne dit pas ça. Le livre dit qu'il y a possibilité pour les autres voies d'aller au paradis. Quelqu'un va me dire, et Mohamed alors? Ça veut dire qu'on doit le mettre de côté? Ça veut dire qu'on peut changer de religion? Ne cherche pas la polémique. Regarde ce que dit le Coran. Bien sûr que Mohamed est le meilleur. Que celui qui dit qu'à un moment donné, la charia de la rahma, la charia qui est fondée sur le pardon, sur la miséricorde, sur... la légèreté. Celui qui décide de mettre ça de côté et d'aller choisir une voie de difficulté, c'est qu'en réalité, il a un problème avec Dieu. Normalement, ici, la loi est attirante en soi. Elle n'a pas besoin de s'imposer. Les autres même, se voyant dans les contraintes qui sont les leurs, diront mais quelle chance! Ces gens-là sont dans une telle facilité, dans une telle légèreté, dans une telle clémence vis-à-vis de leur Seigneur que ça donne envie d'y aller. Mais en réalité, c'est pas ce que nous voyons. Ce que nous voyons, c'est que chez les musulmans, c'est encore plus compliqué, plus dur, plus polémique, plus rude encore. Quelquefois, vous discutez avec les imams, vous discutez avec les prédicateurs et vous vous rendez compte qu'ils ont l'immoralité la plus intense. J'assume le mot. Ils sont capables, à un moment donné, parce que vous n'êtes pas d'accord avec eux, sur une virgule, de couper les ponts à tout jamais avec vous, alors que vous avez partagé le repas. Combien de fois n'ai-je pas vu de tels comportements ? La moralité la plus profonde, la proximité avec Dieu, elle se voit dans la relation avec l'autre. Elle ne se voit pas dans la dureté avec les autres et dans le jugement. Nous sommes une communauté qui jugeons beaucoup. Nous sommes une communauté qui nous recroquevillons beaucoup. Nous sommes une communauté qui avons transformé la religion en un moyen idéologique de défense de son identité. Il ne s'agit pas de défendre ton identité. Il s'agit de défendre les principes universels. Est-ce que tu crois en cela? ou tu préfères croire en ta petite secte qui te rassure que même en faisant n'importe quoi, tu iras au paradis. Tu n'auras aucun argument, yawmul qiyama. Sois à la hauteur et ne descends pas à la hauteur à ton petit niveau.
Ousmane Timira, bien, je vous rappelle que tous les soirs, Maul Patron vous gâte. Un petit peu avant l'ADN. Donc, si vous voulez devenir l'auditeur VIP du jour et repartir avec une télévision 32 pouces ou avec un aspirateur robot offert par Maul Patron d'une valeur de 200 €, eh bien, il faudra nous appeler au top départ. Je vous rappelle que Maul Patron, c'est 4 adresses désormais à Osny, à Buchelet, à Toulouse et à Tourcoing. Et vous pouvez aussi télécharger l'application Maul Patron pour bénéficier des meilleurs tarifs jusqu'à 50% moins cher que les prix constatés.
Ah ouais, c'est vraiment machallah. Plus des produits de qualité, je voudrais le dire quand même, parce que je suis moi-même client. Et franchement, des bons produits, intéressants, allez-y. Un bon magasin. En plus, ils sont de ceux qui valorisent une sha'ira diniya. Et Dieu dans le Coran, il dit « Dhalika man yu'adhim sha'ira Allah fa innaha min taqwa al-qulub ». Le fait de choisir ce mois béni du Ramadan pour le valoriser en offrant des cadeaux comme ils le font, franchement, ils méritent le respect et la considération. Donc, et qu'on fasse des du'as pour eux, qu'Allah Azzawajal leur accorde la bénédiction dans leur commerce et dans leurs activités, Inch'Allah. Ben, de la même manière que le restaurant, je précise, El Maïda, la table servie, qui aussi, pendant le mois du Ramadan, rend hommage à ce mois béni en nous proposant aussi de rompre avec eux et en nous proposant...
Ben, ils s'occupent très bien de votre ventre. Hein. Moi, je sais que je connais personnellement... Non, le patron... le patron m'a dit, Philippe. Personnellement, je m'occupe du ventre d'Abdelali
Mahmoud. Parce que je t'entends pas beaucoup parler pendant le repas, toi. T'es concentré dans ton assiette.
Il a dit, et j'ai préparé du pain spécialement pour l'imam.
Tu ne parles que pour dire het. Amen.
J'ai amen. Amen de plat.
Oui, amen.
Amen de plat. Ah oui, amen. C'est ça. Bon. Allez, 19h pour l'imam. Vous pourrez entendre sa voix, puisque l'ADN est en direct tous les soirs du mois de Ramadan sur Beurre FM.
Ramadan & Co. revient dans un instant.
Suivez Ramadan & Co. avec le Secours Islamique France.
17h-20h, Ramadan & Co. avec Philippe Robichon et l'imam Abdelali Mamoun sur Beurre FM.
Beurre FM, Ramouvision, le Coran en arabe et sa traduction en français.
A'oudhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم.
Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux.
ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ.
Puis, et en dépit de tout cela, vos cœurs se sont endurcis, ils sont devenus comme des pierres, ou même plus durs encore. Car il y a des pierres d'où jaillissent les ruisseaux, d'autres se fendent pour qu'en surgisse l'eau, d'autres s'affaissent par crainte d'Allah. Et Allah n'est certainement jamais inattentif à ce que vous faites.
أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ.
Eh bien, espérez-vous, musulmans, que des pareils gens, les juifs, vous partageront la foi, alors qu'un groupe d'entre eux, après avoir entendu et compris la parole d'Allah, la falsifièrent sciemment.
وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أتحدثونهم قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون.
Et quand ils rencontrent des croyants, ils disent « Nous croyons ». Et une fois seuls entre eux, ils disent « Allez-vous confier aux musulmans ce qu'Allah vous a révélé pour leur fournir ainsi un argument contre vous devant votre Seigneur ? Êtes-vous donc dépourvu de raison ?» Ne savent-ils pas qu'en vérité, Allah sait ce qu'il cache et ce qu'il divulgue. Et il y a parmi eux des illettrés qui ne savent rien du livre, hormis des prétentions, et ils ne font que des conjectures.
فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون.
Malheur donc à ceux qui de leurs propres mains composent un livre, puis le présentent comme venant d'Allah pour en tirer un vil profit. Malheur à eux donc, à cause de ce que leurs mains ont écrit, et malheur à eux à cause de ce qu'ils en profitent.
وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ.
Et ils ont dit, le feu ne nous touchera que pour quelques jours comptés. Dis, auriez-vous pris un engagement avec Allah ? Car Allah ne manque jamais à son engagement. Non, mais vous dites sur Allah ce que vous ne savez pas.
بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
Bien au contraire, ceux qui font le mal et qui se font cerner par leurs péchés, ceux-là sont les gens du feu où ils demeureront éternellement.
والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون.
Et ceux qui croient et pratiquent les bonnes œuvres, ceux-là sont les gens du paradis où ils demeureront éternellement.
وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ.
Et rappelle-toi, lorsque nous avons pris l'engagement des enfants d'Israël de n'adorer qu'Allah, de faire le bien envers les pères et les mères, les proches parents, les orphelins et les nécessiteux, d'avoir de bonnes paroles avec les gens, d'accomplir régulièrement la salate et d'acquitter la zakat. Mais à l'exception d'un petit nombre de vous, vous manquiez à vos engagements en vous détournant de nos commandements.
Retrouvez tous les programmes du Ramadan en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM. L'appli Beurre FM. Beurre FM. Le Ramadan, 30 jours avec vous. 30 jours avec
vous. Et c'est vrai que nous avons tous beaucoup de chance de passer ces moments exceptionnels du mois de Ramadan avec vous, à vous accompagner sur Beurre FM. J'espère que vous êtes aussi heureux que nous, hein, qu'on a de passer ces moments avec vous. Alors ce soir, on est en famille, hein, Imam Abdelali.
Oui, c'est convivial, c'est fraternel.
Samedi, c'est famille, en fait.
C'est agréable. Famille, en plus, c'est... on a la visite, machallah, de notre frère Salim qui est avec nous ce soir. Je ne sais pas si on peut lui donner un micro, il peut dire un petit mot, là. Qu'est-ce qu'il nous a préparé à manger, Salim ? Vas-y, raconte.
Ouh là là, qu'est-ce que j'ai préparé
alors,
à manger ?
Alors, ce n'est pas toi le VIP, mais voilà. Tu es quand même VIP.
Moi, je ne prépare pas à manger. Moi. Heureusement que ce n'est pas moi, c'est la cuisinière qui prépare à manger.
Raconte-nous, qu'est-ce que...
C'est de la surprise.
D'accord,
là, on va te laisser découvrir.
tu parles d'une surprise, il a soulevé tous les plats.
Alors, en tout cas, pour déguster tous les jours pendant le Ramadan, on peut aller où ? C'est où l'adresse ?
Alors, c'est au 79 route de Grigny, à Ris-Orangis, le restaurant
alors,
La 79...
Table
79, route de Grigny.
Route de Grigny, absolument. Voilà, à Ris-Orangis.
Ouais,
génial. Super.
Voilà.
Et ça s'appelle Maïda.
Maïda, donc la traduction, la table servie.
La table servie, super. Voilà, en tout cas, c'est délicieux.
Plaisir. Enfin, moi, je suis très intrigué par une boisson verte que j'ai vue arriver.
Ah oui. Et ça y est, j'annonce.
Non, vous le dites aux auditeurs, vous me le dites pas.
Vas-y,
moi.
Aux auditeurs.
Alors, bouchez-vous les oreilles ici.
Ouais, j'ai
on a préparé ce qu'on appelle chez nous l'asir. Donc,
c'est le jus.
Du jus. Donc, tu écoutes.
Ah oui, j'écoute pas.
Tu vois, tu triches.
Bon, il a déjà goûté. Hein.
Attends, non. J'ai déjà goûté avant les veines.
D'accord.
Comme ça, base d'avocat, de dattes et du miel.
Avocat,
date, miel.
Rappelle-toi, c'est la même boisson qu'on a bu ensemble à la Mecque. Souviens-toi.
Allahu
Akbar. Tu te souviens, la Mecque en bas ?
Ah oui,
la même boisson,
c'est vrai.
Voilà, c'est celle-ci. On a refait la même.
Mm-hmm. Ah ouais.
Ça oui, parce que Salim est très généreux. Partout où il va, voilà, c'est quelqu'un qui, on dit en arabe, rachash, qui arrose tout le monde. Il arrose partout.
Foudil, l'agent Fofo va faire des photos. On vous les mettra sur les réseaux sociaux parce que vous verrez, parce que c'est vrai qu'il y a une très très belle table ce soir. Très belle
table.
Non seulement la table servie. Ouais, non seulement ce qu'on va manger, c'est magnifique, mais la table est bien dressée.
Ouais, elle est jolie. Déjà, on mange avec les yeux. On mange avec les yeux.
C'est Karima.
Tout le mérite revient à Karima.
D'ailleurs, si vous voulez venir manger avec nous un soir, vous n'êtes pas non plus à 20.
C'est pas pour rien qu'elle est compétente, puisqu'elle a travaillé avec Soumicha, la grande spécialiste.
Comment vous dites ?
Soumicha. C'est celle qui, dans la pub, dit couscous dari, merta dari. Tu connais ? Eh bien, c'est elle, cette grande spécialiste marocaine de la gastronomie marocaine.
Absolument.
Et qui, donc, nous propose ce soir le repas directement dans le plateau de Beurre FM. C'est génial. C'est
magnifique. On va bien manger, Inch'Allah.
Soumicha.
Ou bien au 79, route de Grigny, à Ris-Orangis.
Oui, vous êtes les bienvenus.
Voilà. Alors, j'étais en train de dire, Imam Abdelali, que pour ceux qui nous écoutent et qui souhaiteraient, qui sont tout seuls et qui aimeraient rompre le jeûne avec nous un soir, c'est possible.
Oui.
Vous n'arrivez pas à 10, parce que ça, on ne peut pas gérer.
Oui, on peut gérer quelques-uns.
On nous a piqué nos chaises, donc avant, on était 20 ou 30, mais là, on ne peut plus faire ça. Je pense qu'en fait, ils ont trouvé un truc, c'est qu'ils nous ont enlevé les chaises, comme ça, ils disent qu'ils seront moins nombreux.
Ils seront moins nombreux. En tout cas, ouais, vous pouvez m'appeler au 06 29 25 35 00. Je répète, 06 29 25 35 00. Donc, c'est pour vos questions, pour vous inviter ou carrément, pourquoi pas, venir avec un plat, nous faire goûter de vos spécialités.
S'ils sont invités, ils n'amènent pas à manger.
Si. Parce qu'on a l'expression qui dit « marhaba lija ou jab ». Vous ne connaissez pas l'expression ? Ça veut dire « bienvenue à celui qui vient et qui rapporte avec lui ».
D'accord.
Donc, comme ça, on goûte
donc
à
vous
tout.
Vous venez, vous préparez le tour.
Non, ils ne préparent pas. Ils ramènent avec un petit, je sais pas moi, un truc salé, sucré, n'importe quoi. Ils sont les bienvenus, voilà, Inch'Allah. Il faut pas appeler maintenant, s'il vous plaît, parce que là, on est à l'antenne. Donc, 06 29 25 35 00, hors antenne, Inch'Allah. Et vous êtes la bienvenue, Inch'Allah, sur les plateaux de Beurre FM. On vous donnera l'adresse et les accès, Inch'Allah.
Ah, c'est mieux.
Oui, parce que sinon, ils vont chercher longtemps.
C'est mieux pour venir. Bon, en tout cas, ça nous fera plaisir. Mais oui. Voilà, il faut juste prévenir, parce que des fois, on est très, très, très nombreux. Et puis voilà,
on va étaler ça.
Vous passerez l'émission avec nous.
Si vous êtes très nombreux.
Vu que le Ramadan, c'est le mois du partage.
Ouais, il faut partager.
Bon
avec
moment,
nos auditeurs.
C'est le meilleur moment, d'ailleurs.
Surtout, il faut apporter du pain, je vous dis tout de suite. Parce que l'imam, il partage tout, mais pas son pain.
Ah ben, si, le pain aussi. Il y en a assez, c'est bon. Et là, ce soir, il y en a beaucoup. Il nous a fait peur au début, mais finalement, non, il y en a. Il y a beaucoup de pain même. Non, Salim, il a fait ce qu'il faut.
Bien.
En plus du bon pain, du batbout, le fameux batbout, le pain du ramadan.
Bon, alors 01 53 48 3000, vous le savez, tous les soirs, il y a un auditeur VIP qui termine la soirée avec nous. Donc c'est maintenant que vous pouvez nous appeler, puisque c'est peut-être vous qui serez tiré au sort dans un instant. 01 53 48 3000, si vous voulez être l'auditeur VIP. Et je vous rappelle que vous pouvez repartir avec soit une télé 32 pouces ou un robot aspirateur qui vous est offert par Mo, le patron. Voilà, d'une valeur de 200 euros. 01 53 48 3000. Alors on va chercher une main innocente. Tiens, alors, Taïsir. Taïsir.
Alors, tu peux lui donner le micro à
Taïsir. Tu sais qui fait.
Alors, Taïsir, c'est mon fils, il faut rappeler, bien sûr, aux auditeurs, auditrices, qui va tout à l'heure nous faire le 2A après l'Adhan, Inch'Allah.
D'accord.
Inch'Allah.
Alors, Taïsir, est-ce que tu peux nous donner un numéro entre 1 et 6
4.
Est-ce que tu as gagné 4-0 tout à l'heure, c'est pour ça ? Contre Charenton ? C'est normal, c'est normal. C'est alors, c'est qui est numéro 4 ?
Alors, numéro 4, bonsoir, bienvenue.
Bonsoir.
Bonsoir, quel est votre prénom ?
Majdouda.
Majdouda ?
Oui.
D'accord, bien. Ben, écoutez, bienvenue, c'est vous la verrée importante auditrice de ce soir.
Oh, bah, super.
Ben oui, vous êtes à l'antenne.
Il vous a fait gagner.
Voilà.
Il pourrait faire un 2A pour lui.
Et vous êtes en direct sur Beur FM.
Salhou, Inch'Allah.
Alors, vous nous appelez d'où, Majdouda, ce soir ?
Je vous appelle de Bois-Sitranois.
Mmh. Inch'Allah, enchanté. Et alors, vous mangez quoi ce soir, ma sœur ? Qu'est-ce que vous avez mis sur la table ?
Voilà, harira, pastilla, poulet, amandes, et salade.
Ah oui, ben, y a Salim, il a dit qu'il voudrait l'adresse pour aller manger. Parce qu'il...
parce qu'il sait qu'il ne va rien lui rester, donc c'est pour ça que je cherche quelque part pour manger. Bon, est-ce qu'il y a des personnes à qui vous voulez envoyer un message ce soir, Majdouda ?
Bah, à mes frères qui sont à Vernon et dans le 92, et à ma belle famille, à Sevran.
Masha'Allah.
Et à mon mari.
Nous aussi, on leur fait un grand salam. Rabbi islaham, inshallah. Ou rizqlem, inshallah, sa'ada. Ou baraka fi d'ar, inshallah. Ou ahtanti, ya Rabbi, barak lak fi d'arak. Ou fi bitek. Ou la handek shimari, d'arbi, shafih. Ou irham mouta jami' al-muslimin. Allah irhamha, yus'aliha, ya Rabbi. Allah yaj'al qabraha, rodatum riyadil jannah. Ou yba'ad baynaha, wa baynan nar, kama ba'ad bayna al-mashriqi wal-maghrib.
Amin, ya Rabbi,
al-alam.
Jami' al-mouta.
Amin, ya Rab, amin.
Alors, Majdouda, je ne vous ai pas encore posé la question, mais alors, vous voulez un aspirateur ou une télé ?
Une télé.
Voilà. Une télé. Une télé, c'est sorti du cœur. Qui c'est qui est avec vous ce soir pour partager le tour ?
Bah, il n'y a que moi et mon mari.
D'accord. Bon, ben voilà, en plus, vous allez avoir la télé, puis on est à vous. Tranquille. Vous laissez la radio, on sera avec vous alors.
Merci beaucoup.
Merci,
Majdouda.
Voilà,
pour la télé.
Ici, comme Majdouda, vous voulez être l'auditrice VIP, eh bien, ça sera demain soir.
Couscous Dari vous souhaite un bon ramadan. Skso Dari, Meirta Dari. Vivez un ramadan solidaire avec Muslim Hands, 25 ans d'humanitaire à travers le monde.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة
حيّنا الصلاة على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
وتيسير.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمود للتي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. تقبل الله صيامنا وصلتنا بمزيد من الأجر والثواب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
كسكس داري كتمنى لكم شهية طيبة. سكسو داري ما يخطى داري. Bon appétit avec Muslim Hands. Muslim Hands, votre partenaire humanitaire.
Retrouvez Ramadan & Co tous les jours de 17h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.
Ramadan & Co vous a été présenté par le Secours Islamique France. Vos dons changent des vies. Agissez aux côtés du Secours Islamique France. Ramadan, votre générosité fait toute la différence.